Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 25 mai et je suis toujours en vacances, plus ou moins, mais j'ai envie de relancer un petit peu la création de contenu cette semaine. Voilà, j'ai une semaine encore un petit peu tranquille avant d'attaquer un mois de juin bien chargé. Mais voilà, je voulais relancer un petit peu la machine. Je suis pas bien à jour de ma veille parce que j'ai vraiment fait une vraie pause. J'ai fait une randonnée dans les Cévennes. Voilà, mais qui n'était pas très long, qui n'était pas assez long pour vraiment déconnecter, mais qui m'a fait du bien. Et voilà, mais donc là, je reprends un petit peu du service. Voilà, je suis encore, je profite un petit peu du soleil du sud de la France. Je vais faire un petit passage à Marseille. Et puis, je reviendrai pour repartir la semaine prochaine à Nantes et intervenir à la conférence TechReady la semaine prochaine, vendredi 5 juin. Si jamais vous êtes à Nantes et que vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à me le signaler et qu'on se rencontre la semaine prochaine. Voilà, je suis un peu intimidé d'ailleurs par cette conférence. Je vais faire ma conférence habituelle sur le vibe coding et le pop art, etc. Mais les choses ont tellement évolué que je me pose pas mal de questions. Donc voilà, j'essaye de faire évoluer la conférence parce que la refaire telle que je la faisais il y a un an n'aurait pas vraiment de sens. Et puis j'ai compris aussi que quand je fais cette conférence dans une conférence de dev, il faut aussi quand même avoir un discours un petit peu différent. Puis les choses ont évolué, donc voilà, donc ça me prend un peu la tête. C'est pas aussi facile que là quand je l'ai refait plein de fois cet hiver. Mais bon, c'est aussi par honnêteté intellectuelle, je pourrais me pointer et puis juste refaire le truc. Mais voilà, j'ai envie de faire bien. En plus, je suis la dernière conférence de la journée sur la scène principale, donc voilà, j'imagine qu'on attend de moi aussi un petit peu une ouverture et tout. Donc bon, voilà, ça me met un petit peu la pression de vous le partager, ça me le fait un petit peu passer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, tout d'abord, déjà, j'aimerais avoir une petite pensée pour Patrice qui nous écoute de Belgique, voilà, qui traverse des moments difficiles. Et donc, voilà, et on a échangé quelques messages. Il ne pourra pas venir à la No Code Week cette année, malheureusement, à cause de ça. Mais voilà, je voulais te dire, Patrice, qu'on est avec toi, on te soutient. Et voilà, j'espère que ces podcasts t'aident un petit peu, te changent un peu les idées. On m'a envoyé quelques fois des messages comme ça dans toute ma carrière podcastique et je veux dire que ça me touche énormément parce que c'est ça qui me donne l'impression d'avoir vraiment établi une vraie connexion avec les auditeurs et les auditrices. Donc voilà, n'hésitez jamais à m'envoyer des messages, à échanger, à proposer de se rencontrer. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a eu des news que j'ai vu passer quand même. En fait, il y a eu une news qui date de avant que je parte en vacances, donc c'est plus très frais, mais que j'ai pas eu l'occasion de commenter. Je voulais faire un post LinkedIn, et puis j'allais partir en vacances, et puis j'ai eu la flemme. Mais une news que je trouve, on a très peu commenté, et moi qui me choque un peu, donc on va en parler un petit peu. C'est pas forcément pour lancer une polémique, mais plutôt pour ouvrir une discussion. La discussion en question, enfin le sujet en question, c'est le deal entre Anthropic et XAI, SpaceX, SpaceX AI en fait, je crois que c'est maintenant le nom complet de la division IA de SpaceX, puisque tout ça a fusionné. Bon, vous avez peut-être suivi les intrications de Elon Musk, qui a d'abord fusionné Twitter avec XAI, et puis qui a fusionné ensuite XAI avec SpaceX, tout ça à l'aune d'une entrée en bourse, etc. Bref, tout ça, c'est pas très important. Ce que je voulais quand même souligner, c'est que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, alors que ce n'est pas du tout anodin. Donc, je rappelle les faits. Anthropic, qui est le laboratoire d'IA qui a le vent en poupe, qui est un peu dépassé par la demande, a besoin de capacités de calcul. De l'autre côté, on a SpaceX, qui a de la capacité de calcul, puisqu'ils ont deux énormes centres de données, des data centers, dont un, voilà, qui, enfin, ils ont deux énormes centres de données, et qui n'est pas assez de demande par rapport à leur modèle, puisque personne n'utilise Grok, parce que franchement, c'est de la merde, et que tant mieux si personne les utilise. Mais donc, ils ont de la capacité de calcul et peu de demandes. Donc, tout naturellement, un deal s'est fait pour que l'entièreté du data center Colossus 1 soit fournie en capacité de calcul à Anthropic, qui en a besoin. Donc, dans l'absolu, c'est un deal, voilà, Anthropic a besoin de data center, il y a un fournisseur d'accès qui a un data center. Sauf que c'est pas un fournisseur n'importe lequel. Alors, je ne vais pas revenir sur la personne d'Elon Musk, etc. Mais c'est quand même quelqu'un de très problématique. C'est quelqu'un qui a dit que Anthropic était... Alors, je ne me souviens plus des termes exactement, mais bon, il a dit beaucoup de mal d'Anthropic il y a quelques mois, notamment parce qu'ils considèrent que c'est une entreprise qui est très woke, et puis quand il y a eu toutes les histoires avec le Pentagone, le machin, donc voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc, mais bon, quand il s'agit de business, bon, on peut oublier toutes ces choses-là. Moi, ce qui me choque plus, à la limite, c'est qu'Anthropic soit allé faire du business avec quelqu'un qui avait dit autant de mal d'eux. Mais bon, encore une fois, ils ont des besoins que eux seuls, que seul SpaceX peut donner. Donc on comprend, voilà, la logique. Anthropic ne peut pas se permettre de rater ce moment clé, ce moment charnière où ils ont dépassé OpenAI. Ils ont dépassé, il me semble, en termes de revenus OpenAI au premier trimestre. Et donc, si ils n'offrent pas assez de capacité de calcul, bah, les gens vont s'en détourner. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir remarqué que la qualité de service en début d'année là, de Anthropic était quand même laissée à désirer. Et donc, il y a eu ce deal qui a été fait. Et en fait, ce deal, je pense qu'on en a peu parlé. D'abord, je vais dire quand même pourquoi c'est problématique. Donc, on met de côté Elon Musk, SpaceX, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Colossus 1 est un data center qui est en grande partie fourni électriquement par des turbines à gaz. Des turbines, des camions. C'est des camions. Donc, parce qu'en fait, donc, il me semble qu'il a repris donc, un entrepôt où il y avait une énorme déjà arrivée d'électricité. Sauf qu'il avait besoin d'encore plus d'électricité que ça. Et en fait, aux États-Unis, comme partout dans le monde, bah, il y a une capacité de production électrique limitée. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait venir des camions, des turbines, des centrales à gaz portatives, en quelque sorte, enfin, c'est pas le bon mot, mais par camion. Et donc, il y a des dizaines de ces mini-centrales qui sont tout autour. Il y a des photos hein, de ça, il y a même, ça se voit même sur les photos satellites. Et donc, chacune de ces centrales à gaz, en plus, est refroidie par des systèmes de ventilation aussi, pareil, mobiles. Et donc, pourquoi j'en parle ? Bah parce que c'est écologiquement, c'est catastrophique. C'est-à-dire l'empreinte carbone de ce data center, notamment à cause de ces centrales à gaz, est catastrophique. Alors, le reste de l'électricité, a aussi une très mauvaise empreinte carbone, puisque aux États-Unis, c'est principalement des énergies fossiles qui sont utilisées pour fournir l'électricité. Donc, voilà. Mais là, c'est surtout vraiment. On voit toute la démesure en fait dans laquelle on est actuellement de voilà, on doit produire de l'énergie et on est prêt à le faire par des moyens qui sont vraiment pas du tout qui ont une empreinte carbone terrible quoi. Et donc il y a des gens qui en ont parlé hein, évidemment, mais très peu finalement. Très peu. Donc entre quand même bon le fait qu'on pourrait mettre en doute quand même le fait qu'Anthropic travaille avec quelqu'un comme Elon Musk et ce sujet-là. Ça fait quand même deux trucs qui font que ce deal n'a rien de réjouissant. N'a rien de réjouissant, sauf que, et là, Anthropic a été extrêmement habile dans la communication, tout de suite, ils ont augmenté les quotas, les limites des abonnements mensuels, etc. Et donc, bah, tout le monde s'est plutôt réjoui de cette news-là, de se dire, bon, super, bah, on peut à nouveau rentrer dans cette frénésie de consommation de tokens et de token maxing, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez ce que je pense de l'abus de ces quotas. Mais franchement, voilà, je ne sais pas. En fait, voilà, alors, oui, je suis probablement plus écolo que la moyenne, j'aime probablement moins Elon Musk aussi que la moyenne. Mais tout ça, mis bout à bout, je trouve que vraiment, on n'a pas beaucoup parlé. Donc voilà, peut-être que je ferai un post LinkedIn par rapport à ça. J'avais envie d'en parler dans ce podcast. Mais voilà, ça me tenait à cœur, ça m'a travaillé un peu là quand j'étais en train de marcher dans les Cévennes, parce que je me disais, mais voilà, pourquoi, enfin, de toute façon, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, hein, pourquoi on n'a pas beaucoup parlé, c'est parce qu'il y a eu un jeu de communication assez bien fait, et que globalement, les gens, la majorité des gens, et peut-être pas vous hein, qui écoutez, mais sont trop préoccupés par leurs limites de quotas d'IA que par l'environnement, ce qui est tout à fait problématique. Alors, d'ailleurs, un petit truc quand même qui m'est apparu et que je savais, mais qui m'est apparu pendant cette marche dans les Cévennes, où j'ai rencontré plein de gens, parce que j'ai fait un GR assez connu, c'est que en fait, la plupart des gens s'en foutent de l'IA, quoi. Enfin, dans tous les gens que j'ai rencontrés, c'est pas du tout un sujet, et on le sait, hein, mais en fait, je vis tellement dans cette bulle de l'IA, du no-code, de la technologie, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire un petit peu de recul, Mais voilà, c'était intéressant, franchement, au milieu là, de la Lozère. J'ai des anecdotes, mais je vais pas les raconter là parce que ça va être fastidieux. Mais vraiment, j'ai pu voir que les gens étaient très loin de même de savoir ce qu'était ChatGPT, quoi. Donc c'était assez rigolo, c'était un peu rassurant quelque part. Et en même temps, je me dis, la plupart des gens, si on est réaliste, alors je pense que je sais pas si c'est la plupart, mais aujourd'hui, c'est quand même un grand nombre de gens s'intéressent pas du tout à l'IA, ne l'utilisent pas. Et pourtant, on arrive déjà au bord des limites de la consommation électrique disponible, etc. Avec les gens, alors je pense que dans les bureaux et tout, maintenant dans un contexte professionnel, il y a quand même énormément d'usages, mais il y a quand même aussi plein de gens qui sont réfractaires à l'IA, il y a plein de gens qui s'en foutent, qui ne sont pas concernés. Et donc, voilà, ça m'interroge. Quelque part, ça me rassure aussi parce que je me dis que certaines angoisses un peu sociétales que j'ai sont peut-être quand même à mettre en mesure. Déjà, pour l'instant, en fait, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas non plus tant que ça. Il y a des études, j'ai pas les chiffres là, mais pour l'instant, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça de destruction d'emplois liée à l'IA, puisque c'est un des sujets, hein, cette destruction d'emplois, elle va avoir des conséquences, elle aurait potentiellement des conséquences sociétales, à mon avis, importantes. Pour l'instant, elle n'a pas l'air de se passer, même si, évidemment, on a tous entendu parler des grands des plans de licenciement dans les startups et tout, mais en fait, ça, c'est un peu marginal. Ça a été bien documenté que globalement, c'est de toute façon pas du tout lié à l'IA, en fait. C'est des gens qui virent parce qu'ils avaient trop recruté après le Covid. Bon, voilà, je reviens pas là-dessus. Et par contre, il y a aussi ces entreprises dans la tech, hein, principalement, ça concerne pas tout le monde, mais ces entreprises dans la tech qui virent des gens pour libérer du budget, de la masse salariale, pour investir dans l'IA, dans de la puissance de calcul et tout. Ceux-là, je pense, font peut-être potentiellement un mauvais calcul, on verra, l'histoire nous le dira. Moi, je pense que là, on est dans une période de transition, de débauche, de token maxing, mais où on va se rendre compte que finalement, déjà, ces tokens, ils coûtent cher, même déjà aujourd'hui, hein, et qu'en fait, ça coûte quand même plus cher que des humains qualifiés, motivés, et que, par contre, le combo des deux, d'humains qualifiés, motivés, à qui on donne des bons outils, ça, c'est probablement irrésistible. Et voilà, et j'espère qu'il y aura cette réalisation-là. Et s'il y a cette réalisation-là suffisamment vite, bah, il n'y aura peut-être pas tant que ça de destruction d'emplois, et il y aura peut-être plus de capacité de production et de choses intéressantes. Après, qu'est-ce qu'on fera de tout ça? Bon, ça, c'est une autre question. Mais voilà, bon, de toute façon, ça, c'est le sujet, hein, sur lequel je reviens en boucle, hein, c'est vraiment essayer de trouver des usages pertinents, minimalistes de l'IA. Voilà, bon, on continue à creuser tout ça. Là, on m'a envoyé un article qui parlait de token mining, donc par opposition à token maxing, token mining plutôt, enfin, je sais pas comment le prononcer, mais pour dire moins minimiser son impact de token. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur LinkedIn pour des astuces pour minimiser les tokens, etc. Donc, le problème, c'est que ça, ces techniques-là, les gens en parlent pour essayer de pouvoir consommer plus. Ce que j'aimerais, c'est qu'on essaye de les utiliser pour consommer moins, pour consommer mieux, pour aussi remettre en marche notre cerveau. Ça, c'est un truc vraiment qui m'angoisse, hein, franchement. Enfin, c'est pas une angoisse fondamentale, c'est plus une opportunité. Je me dis que là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de débrancher leur cerveau et de le confier à l'IA. Et je me dis, c'est l'occasion de, au contraire, du coup, aller à l'inverse de la tendance et muscler son cerveau plus que jamais, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une réflexion que je travaille un peu depuis quelques semaines. J'ai commencé à réfléchir à des exercices. Je me suis remis à écrire énormément dans mon carnet. Je me suis remis à faire des choses comme ça, lire plus, essayer de lire mieux aussi, parce que j'ai tendance à lire un peu n'importe comment, à lire très vite, à pas. Voilà, bon, ça c'est un autre sujet dont on pourra parler un jour. Je suis un très mauvais lecteur. Mais voilà, donc je sais pas. Ça c'est une réflexion. C'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler parce que ça c'est un peu la philosophie du cercle des ops. Bon, j'ai pas beaucoup parlé récemment, mais sur lequel je travaille beaucoup depuis le début de l'année, toute cette idée de pratiquer bah, tout ce qui est ops, technologie, automatisation, vibe coding, vraiment tout ça s'apprend aussi par la pratique. Une fois qu'on a acquis un peu des bases de théorie, hein, fondamentales, je crois toujours vraiment à ça, mais aussi la pratique. Et dans cette pratique, j'ai envie de quelque part peut-être réfléchir à inclure un peu des exercices cognitifs, voilà, comment essayer de rester un peu compétitif et musclé, et toujours en conjonction évidemment avec l'IA, parce que je reste convaincu que c'est un outil formidable, mais pas au détriment de son cerveau, quoi. Et donc de combattre la flemme, Donc voilà, je pense qu'il y a des petits exercices à imaginer pour ça, il y a des petites choses, des petites astuces. Si c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi, n'hésitez pas à me les partager. Voilà, globalement, un petit peu où j'en suis, ça c'est la partie un petit peu philosophique. J'ai deux petites news encore à vous partager que j'ai vu passer. Il y a une super interview, j'en ai lu qu'un résumé, mais il faut que je la regarde, c'est dans ma liste. Là, j'ai pas mal de trains dans les jours et les semaines à venir, donc je vais regarder tout ça. Mais de Demis Hassabis. Demis Hassabis, c'est le... Demis Hassabis, d'ailleurs, il n'y a pas de S à Demis. Demis Hassabis, c'est le fondateur de DeepMind, qui est un laboratoire d'IA fondé dans les années 2010, qui a été racheté par Google, qui est vraiment la partie un peu profonde deep tech de Google, qui travaille sur des choses très intéressantes. Il y a un super documentaire là-dessus que je vous avais déjà recommandé par le passé. Et donc c'est quelqu'un que je trouve mesuré, intéressant, pertinent, qui est un peu plus loin, qui n'est pas dans les usages vraiment directs de l'IA, même s'ils ont des choses très appliquées d'ailleurs dans leur labo. Et en fait, j'ai trouvé, il y a quelque chose qui était super intéressant. Il disait que... il parlait déjà de cette destruction d'emplois et tout. Il disait que, voilà, il se trompait un peu dans tous ces gens qui licenciaient à cause de l'IA et qu'on devrait plutôt garder les humains et plus leur faire plus de choses. Bon, voilà, il y a un peu de théories qui s'affrontent là dans le futur qui nous attend. Est-ce que on va juste pour faire plus de choses ou est-ce qu'on va faire le même nombre de choses mais avec moins d'humains? Ça d'ailleurs, je le garderai pour un autre épisode, mais il faut aussi que je commente un petit peu l'audition d'Arthur Mensch à l'Assemblée, le fondateur de Mistral. Mais ça, je le ferai peut-être demain ou après-demain, je referai une petite note pour parler de ça. Donc, mais voilà, Demis Hassabis, voilà, donc il parlait de ce truc-là. On pourra en reparler peut-être justement à l'occasion de quand je commenterai un petit peu l'audition d'Arthur Mensch. Mais Demis Hassabis, il faut que j'arrive à bien prononcer son prénom. Par contre, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il parlait aussi de la super intelligence, ce qu'on appelait avant l'intelligence artificielle générale, le AGI, mais bon, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un terme consacré qui est plutôt la super intelligence. Et il disait, on a besoin d'encore un ou deux breakthroughs, c'est-à-dire d'avancées scientifiques majeures pour atteindre la super intelligence. Une ou deux avancées majeures, une ou deux. Une avancée majeure, il y en a une tous les 10 ans, à peu près. On pourrait dire que là, l'avancée majeure dans laquelle on est dans la vague de l'IA, c'est le papier Attention is all you need de 2017, là, des chercheurs de chez Google, qui a amené l'architecture transformer, etc., qui a permis l'arrivée des LLM. Et donc, on est toujours en fait sur cette avancée-là, avec des petites avancées, on va dire, complémentaires qui ont permis d'améliorer là, toute cette, là, dans les 3-4 dernières années, on a vu évidemment hein, cette amélioration continue des LLM, mais on n'a pas eu de choses majeures. On a eu les LLM qui ont petit à petit, peu à peu amélioré avec plus d'entraînement, etc. On a eu des logiciels autour qui ont tiré de plus en plus profit des LLM en ajoutant les harnais agentiques, etc. Bon, on ne revient pas là-dessus. Et puis, on en est là. Et on voit bien quand même que, bon, on nous parle de mythos, de modèles LLM fantastiques, mais globalement, on n'est pas dans des avancées majeures. Et donc, ça veut dire que cette histoire de super intelligence, on n'y est quand même pas du tout. Et j'ai tendance à faire confiance à Demis Hassabis parce qu'il travaille quand même pour un des fournisseurs principaux d'IA. Et donc, il pourrait être dans un discours beaucoup plus comme Sam Altman ou Dario Amodei, qui, eux, sont tout le temps « Ah oui, c'est demain, 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 plus de développeurs, demain, super intelligence, machin. » Et puis, en fait, c'est toujours demain, mais ça n'arrive jamais, quoi. Et donc, voilà. Donc ça, je trouvais donc une ou deux. Il dit quand même une ou deux, hein, donc ça veut dire qu'on a un peu de temps. Et ça conforte d'ailleurs des choses que j'avais lues déjà il y a au moins un an et demi. Sergey Brin de chez Google, un des fondateurs de Google, qui disait aussi, pareil, là, on atteint un plateau parce qu'on a consommé toutes les données. Et donc, on va avoir besoin maintenant de nouvelles recherches scientifiques avancées. Donc, ça correspond un peu à ce qu'il disait pour passer au prochain plateau. Donc voilà. Et donc dans cette lignée-là, il y a une petite news aussi quand même que j'ai trouvé intéressante parce que c'est quelqu'un que je cite très régulièrement dans mes conférences, qui est André Carpati. André Carpati, c'est, je parle souvent, hein, c'est un des membres fondateurs d'OpenAI, c'était le directeur de l'autopilote chez Tesla, donc c'est un des chercheurs en IA vraiment les plus concrets. Et depuis, il fait beaucoup, depuis qu'il a quitté ces postes-là, il fait beaucoup d'éducation, il est très présent sur sur les réseaux sociaux. Il fait des très longues vidéos où il explique les choses autour de l'IA. Il est très pédagogue, il fait des conférences. Et puis, c'est lui, évidemment, qui a inventé le terme vibe coding. Donc, on lui doit ça. Il a fait un peu évoluer. Bon, il parle de agentic coding, de nouvelles choses. Mais voilà, c'est quelque chose de quelqu'un de très intéressant, je trouve, vraiment, et que je suis. Il a proposé récemment des choses très intéressantes autour de l'organisation d'intelligence avec des fichiers Markdown. Enfin, donc voilà, il n'est pas tout le temps dans une débauche de technologie, puis c'est surtout quelqu'un de très très solide techniquement, quoi. Et donc, ce André Carpathy, eh bien, il a été recruté, il vient de rejoindre Anthropic, et il vient de rejoindre Anthropic dans la division qui travaille sur le pré-entraînement, il me semble, des modèles. Et donc, typiquement, je fais le lien un petit peu avec le truc précédent, c'est ce genre de chercheur. Alors, c'est pas un génie, c'est pas lui qui va révolutionner le prochain, mais voilà, c'est ce genre de chercheurs, de personnes qui peuvent contribuer dans, et il y en a plein, hein, il y en a plein en France aussi, on a des très bons chercheurs en intelligence artificielle. Mais donc voilà, il faut, maintenant, on est dans le temps aussi, on est d'un côté dans les usages, on continue à construire des choses intéressantes avec les LLM pour le grand public et pour les professionnels et tout, et puis de l'autre côté, dans les labos, maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Alors, on a aussi Yann Lequin qui tente une autre approche avec ses World Models, mais voilà, côté... ça, c'était la petite news que je trouvais quand même assez notable, parce que c'est quand même quelqu'un... on imagine qu'Anthropic a dû lui faire un pont d'or. Donc c'est intéressant, c'est un petit signal en plus, donc on continue la course au talent continu. On n'est pas que dans la course aux puissances de calcul, mais aussi toujours continuer à recruter les plus grands talents pour arriver à continuer. Et voilà, on voit bien que chez Anthropic, ils travaillent beaucoup sur les produits. Ils nous sortent des cloud design, des machins toutes les semaines. Ça, c'est le département produit. Et puis, côté recherche fondamentale, bah voilà, ils continuent aussi à se développer. Et d'ailleurs, ça date un petit peu, mais je l'ai dans ma liste. Dario Amodei avait dit il y a quelques semaines qu'il pensait que les modèles open source et chinois seraient capables de rejoindre les capacités de Mythos, donc qui est leur super modèle là, qui n'est toujours pas sorti pour le grand public, d'ici 6 à 12 mois. Donc ils considèrent que les modèles open source et chinois ne sont même pas à un an derrière leur modèle le plus avancé qui n'est pas public. Donc c'est quand même assez intéressant. Moi je le vois bien, moi j'utilise de plus en plus des modèles open weight, etc. Et franchement, c'est très très bon. Hein. Là j'ai eu un cas, j'ai fait un audit sur un vieux projet que j'avais fait, enfin vieux de un an, avec Claude, Opus 4.7, bon, qui est le top hein, en dev, et DeepSeek Pro V4, et ben les deux audits étaient très bons, et chacun des deux avait à trouver des choses que l'autre n'avait pas trouvées, et à rater des choses que l'autre avait trouvées. Et je les ai fait comparer, et franchement, j'ai trouvé que DeepSeek V4 était complètement compétitif avec Opus 4.7, donc il faut arrêter de s'extasier aussi, et de jurer que par Opus et Anthropic et tout. Alors après, bon oui, il y a des choses un peu avancées, mais franchement, DeepSeek V4 Pro, vraiment, moi, il m'impressionne. Hein. Donc voilà, j'ai un peu mis de côté Kimi, parce que la version 2.6, je la trouve extrêmement lente, mais le DeepSeek, et dans ma liste, il faut que je teste plus Mistral, parce qu'apparemment, leur nouveau modèle pour le code est pas mal. Donc vous voyez, même Anthropic, et on le sait, hein, je le dis régulièrement, hein, on voit bien pourquoi ils investissent autant de temps aussi sur les produits, et le fait d'avoir créé tout cet écosystème dans lequel ils vont complètement enfermer les gens et les garder captifs, c'est parce qu'ils savent que les modèles, pour l'instant, sur les LLM en tout cas, tout le monde va arriver à peu près au même niveau, ou pas loin, là, dans les prochains mois. Moi, je pense qu'en réalité, on y est déjà. Parce qu'en fait, c'est une question de... Je trouve qu'on est beaucoup trop rivé vers les modèles frontières. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est de quoi on a besoin aujourd'hui, quel est ce dont on fait le plus usage. Et moi, je suis convaincu pour la plus grande partie des gens, un modèle du niveau donc intermédiaire de Sonnet, par exemple, ou voilà, des équivalents OpenWeight, etc., en fait, suffit très largement pour la plupart des gens, mais très très largement pour la plupart des sujets, parce qu'en fait, c'est un modèle qui est bien meilleur que ce que l'on utilisait au top il y a un an et que l'on trouvait déjà très bon à l'époque. Et donc, en fait, les modèles frontières, ça ne sert à rien, à part consommer plus vite vos tokens dans beaucoup de cas, pas à chaque fois, ça sert à rien, mais ça ne sert à rien dans la plupart des cas. Après, évidemment, je veux dire, moi-même, sur certains sujets, j'utilise les modèles, puis en plus, on développe un certain affect. Par exemple, je suis auto-convaincu que Opus était bien meilleur en écriture que Sonnet. En fait, je pense que c'est complètement contestable, mais j'ai pas le temps de le vérifier. Donc, voilà. Mais, ayez ça en tête. Mais vraiment, moi, j'ai aucun mal. Pourtant, j'utilise quand même pas mal l'IA à un niveau assez avancé. J'ai aucun mal à me sortir d'Anthropic à utiliser d'autres modèles. Vraiment, ça me pose aucun problème. Donc, si c'est le cas pour moi, ça peut être le cas pour vous aussi. Après, je dis ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je nierai pas que les modèles d'Anthropic sont très bons et que c'est, vous n'avez peut-être pas aussi besoin et le temps de vous questionner à chaque fois que vous envoyez une demande à un LLM de quel modèle utiliser, etc. Néanmoins, faire cette petite gymnastique aujourd'hui pourra être salutaire quand les prix continueront à augmenter. Parce que je ne vais même pas dire commencer, parce que ça a commencé déjà. On le voit bien, ils ont réduit les quotas, les trucs. Alors là, comme il y a eu ce truc que j'ai commenté là avec Colossus, bon, ils ont réaugmenté les quotas. Enfin, mais on est dans un jeu un peu de dupes, en fait. Hein. Je pense vraiment que, en fait, c'est déjà, on paye déjà plus cher. Il faut commencer à faire attention. Voilà, allez, je m'arrête là. Et puis, on va se retrouver dans la semaine. Je continuerai un petit peu à vous commenter ça. Et puis, il y a plein de choses intéressantes à venir. Allez, à très bientôt. Salut.